phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
C'est encore monté d'un cran aujourd'hui.
Rebelle des radios.
Bonsoir.
Alors ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on avait un peu fait les autistes jusque-là, depuis un moment déjà. On avait un peu relayé ça, vite fait, avec ce qu'on avait trouvé sur Rebellion ou quoi. Mais ça, cette fois-ci, on va commencer par s'étendre en long, en large et en travers sur les Nuits Debout, en particulier à Paris, avec quelqu'un qui est au téléphone, et à Lyon. Alors, commençons par Paris.
Alors, est-ce que tu nous entends?
Ah, en tout cas, moi j'ai l'impression que moi je t'entends pas.
Est-ce que tu nous entends mieux maintenant?
Oula.
Est-ce que tu entends ce Larsen?
On va commencer par Lyon alors.
Ok, très bien. commençons par Lyon, où c'est de où là. On a trois invités dans le studio, Camille, Camille et Camille. Qui traînaillent sur la place Guichard depuis le début de ces fameuses Nuits Debout, peut-être même avant la place Guichard.
C'est ça, ouais. On en était là depuis le début, en tout cas. Depuis le début.
Et est-ce que vous pourriez commencer par un peu rapidos, mais raconter le début?
Le début, du coup, il y a eu déjà, il y a deux semaines maintenant, deux, trois rassemblements. Place Mazagran, sur le pont de la Guillotière, à Croix-Rousse, etc. Mais il n'y a pas eu de campement, etc. C'était un peu vers 18h, etc. Ça s'arrêtait vers minuit. Et là, véritablement, on s'est installé Place Guichard. Ça fait depuis samedi, du coup, plus d'une semaine, ça fait 10 jours maintenant, qu'on y est tous les soirs, qu'il y a un campement, que c'est de mieux en mieux organisé, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Et du coup, ça a commencé après la manifestation du samedi contre la loi travail. Et les gens sont venus, sont restés, ont apporté ce qu'ils avaient pour monter un campement. Et là, il y a l'organisation interne qui s'est mise en place... un peu sur le modèle de ce qui se faisait à Paris, avec des améliorations et deux, trois petites différences lyonnaises.
Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous donner des petits renseignements pratiques? Ça commence à quelle heure? Ça termine à quelle heure? Est-ce que tout le monde peut y aller facilement?
Tout le monde peut y aller facilement. C'est Place Guichard, du coup, c'est sur la ligne B, c'est un arrêt de métro. Avant Pardieu, il me semble, c'est ça. Après Saxe, entre Saxe et Pardieu. Ça commence à 18h, sachant que si vous voulez y aller avant, vous pouvez, il y a toujours du monde, il y a toujours besoin de forces vives, etc. pour organiser, préparer l'organisation. À 18h, du coup, il y a un peu l'accueil, le temps que tout le monde arrive. Vers 18h30, 19h, il y a une première assemblée générale qui se met en place, qu'on accueille les nouveaux venus, qu'on leur explique le déroulement, comment ça se passe. On fait une présentation des commissions, parce que c'est ça un peu le gros du débat, etc. C'est des cercles de parole, en fait, qui se forment. Ça dure une heure et demie. Il y a des cercles, c'est des commissions action, commissions communication, commissions éducation, commissions constitution, etc. Donc un peu sur tous les domaines de la société, sachant qu'il y a des gens qui ont des compétences.
Alors peut-être qu'on va, on va arriver au contenu assez rapidement, mais quand même après, il y a combien de personnes qui sont là tous les soirs à,
Je dirais à la louche. 800 selon la police, 2000 selon les manifestants. Je dirais qu'on est en général 800, ouais. Vers 20h, c'est là où il y a le plus de monde. On est environ 800.
D'un point de vue logistique, vous mangez, vous abritez s'il pleut, vous pissez, vous...
Ouais, il y a des toilettes sèches qui ont été installées, il y a des tentes qui ont été installées, il y a la commission Miam Miam qui s'occupe de la nourriture, et il y a, du coup, ça, on fait de la récupération sur les marchés, les gens amènent un peu, etc. On fait les poubelles des supermarchés pour récupérer, on fait surtout de la récupération, et après, c'est les petites mains, nos petites mains qui s'activent pour préparer. Et du coup, c'est gratuit, forcément. Et on peut se restaurer là-bas, bien sûr. Ouais. Et ouais, quand il pleut, on a des tentes. On a... Non, c'est bien installé, c'est bien installé.
Et alors, le déroulement des soirées, tu avais commencé là-dessus, mais du coup, il y a des âgés et...
Ouais, en fait, il y a deux choses, on va dire. Les âgés et les cercles de parole. Et les âgés, c'est pour faire remonter ce qui s'est passé dans les commissions, faire remonter tout ce qui s'est dit. Et le but, c'est d'arriver à des propositions concrètes et de les passer au vote, du coup.
C'est-à-dire qu'il y a des AG, après les commissions se réunissent ?
Ouais, les commissions se réunissent, et après il y a une deuxième AG qui est vers 21h30, 22h, et là où tout le monde s'assied, place Guichard, les commissions s'arrêtent, et là il y a des gens qui font remonter ce qui s'est dit, et on propose des choses, et après on passe au vote. On passe au vote, ouais.
Et vous votez quoi par exemple ?
Qu'est-ce qu'on a voté ? Bah, au début on a voté quelle place on allait occuper, c'était pas forcément évident, et essayer de trouver une place où on n'est pas trop coincé si jamais ça se passe pas bien, et c'est une place qui est accessible, du coup d'où place Guichard qui a un métro, une place, on a voté ça, on a voté sur la question d'aller à France 3 pour parler du mouvement, on a voté non, il y a eu un vote qui s'est fait, sur l'idée que c'est à eux de venir s'ils veulent parler du mouvement. Qu'est-ce qu'on a voté d'autre sur la commission éducation, d'envoyer des lettres un peu à tout le personnel interpédagogique, aux mairies, etc. Envoyer des revendications, des propositions surtout. C'est pas que contestataire. Et c'est surtout ça. Ouais, je voudrais insister là-dessus. C'est pas que contestataire. Quoi, ça part d'une contestation et sur l'idée de la convergence des luttes et des propositions qui sont faites. Et les gens ont beaucoup d'idées, et du coup, voilà, c'est nous, on les vote, l'Assemblée les vote.
Est-ce qu'il y a des traces de ce qui s'y passe ? Est-ce qu'il y a des comptes rendus écrits ou quelque chose ? Est-ce qu'il y a des bilans ?
Il y a des bilans qui sont faits, il y a, sur le lieu même, il y a des cahiers qui tournent, etc., pour que chacun puisse noter un peu. Il y a des sites internet qui ont été créés, c'est forumnuitdebout.lyon.fr, et là, c'est la communication qui s'en occupe, qui fait remonter ce qui s'est dit en AG, les propositions, il y a un forum, donc on peut y, de chez soi, écrire, il y a un espace discussion, débat, idées, propositions, du coup, ouais, il y a les pages Facebook, enfin les réseaux sociaux habituels, et c'est surtout, ouais, Forum Nuit Debout, et on peut y accéder, tout le monde peut y accéder, donc je répète, c'est forumnuitdebout.lyon.fr. Et là, il y a tout qui est le compte rendu est fait, ouais, systématiquement tous les soirs après les AG pour tenir au courant.
Le genre de personne qui est là-bas, c'est qui en termes d'âge, de socialement d'où ils sortent, de...
Ça dépend de l'heure en fait. Il y a beaucoup de jeunes, on va dire, des étudiants, des gens dans la galère, etc. En sortie de bureau vers 18-19h, il y a un peu des familles qui viennent, même des enfants, des parents qui viennent avec leurs enfants, des personnes plus âgées, pas mal de personnes plus âgées, ouais, qui ont 50, 60 ans, donc c'est assez large, le spectre, l'âge, c'est assez large, tout le monde. Plutôt des jeunes, je dirais, quand même, entre 20 et 30 ans, mais sinon, ouais, tout le monde est là, tout le monde est convié d'ailleurs, c'est pas du tout fermé. Et là, ce qu'on a vu un peu sur la semaine, c'est que il y a beaucoup de gens qui passent et qui, quand ils y passent, ils y restent. Beaucoup viennent pour voir comment ça se passe et le fonctionnement plaît assez. Et du coup, les gens après s'investissent, même si au départ, ils ont pas forcément leur mot à dire selon eux, etc. Après, tout le monde est légitime en fait. La présence seule atteste de la légitimité. Dès qu'on est là, on a son mot à dire, quoi.
Les commissions là, ou les groupes de parole, je me rappelle plus comment t'as dit que ça s'appelait.
C'est une commission, groupe de parole, à Paris, ils parlent de quartier.
D'accord. Et c'est quoi les thématiques ?
Déjà, chacun peut proposer une commission. Après, comme je disais, j'ai pas tout en tête. Il y en a qui se créent. Il y a une commission féministe, il y a une commission logistique, un peu les commissions qui gèrent l'interne, comment on fonctionne, commission action, qui sont des actions plutôt directes, etc., qui gèrent aussi un peu qu'est-ce qu'on va faire, comment on prépare les manifestations. La dernière fois, il fallait bien faire les banderoles, donc on a fait ça. Commission juridique, donc des gens qui réfléchissent aux textes de loi, vraiment des gens qui sont juristes, avocats ou même des gens qui s'y connaissent un peu moins mais qu'on leur aidait à dire. Une commission un peu économie où il y a des entrepreneurs aussi qui viennent pour proposer d'autres modèles, des économies sociales et solidaires. Il y a commission, j'en oublie sûrement, mais il y a un peu tout éducation. C'est pour pour celles que j'ai en tête, mais il y en a d'autres. Et c'est un espace de vie aussi, c'est ça qui est intéressant. Il y a une petite bibliothèque qui s'est mise en place, etc. Et c'est très convivial, très familial, mais ça reste pas, c'est pas un after work non plus, quoi. C'est des gens qui sont motivés et qui veulent faire bouger les choses. Et on n'est pas là à se regarder dans le blanc des yeux. Il y a des propositions et la dernière fois, jeudi dernier, il y a une manif sauvage qui est partie. Il y a des choses qui émergent. C'est vraiment un lieu d'émergence d'idées et d'actions.
Tout à l'heure tu parlais de vote. À des moments où vous votez, est-ce que vous avez une réflexion critique vis-à-vis du vote en soi, par exemple, ou c'est pas du tout l'ambiance?
Si, c'est l'ambiance. Il y en a qui en parlent, etc., sur l'idée du consensus, du vote, etc. Nous, on a repris ce qui se faisait chez les indignés, le système de vote, d'accord, pas d'accord. Sachant que c'est le problème de la décision, quoi, qu'elle doit se prendre, qu'on peut pas, parce que s'il y a pas de décision, ça va péricliter, quoi, ça va décliner, et c'est pas le but. Du coup, on vote, c'est un vote comme ça à main levée, en fait. C'est une agora, on fait comme ça une démocratie à main levée, et ça marche plutôt bien, en fait. Ça marche plutôt bien. Et quand il y a des désaccords, le micro est ouvert, tout le monde peut parler, et donc. Du moment où on a un désaccord et qu'on explique pourquoi, après ça fait réfléchir les gens, ce qui fait que quand les gens votent, on leur dit, enfin ils ont les pour, les contre, et ils peuvent faire la réflexion en leur âme et conscience. On les laisse pas, enfin personne n'est laissé comme ça avec un vote, une question un peu. Donc il y a de quoi faire.
Tout à l'heure, je me suis baladé un peu sur le forum Nuit de Bouillon, et par exemple, il y avait un gars qui faisait un post en disant que. Qu'il y avait un truc qui avait été voté pour dire que Nuit Debout était contre la loi El Khomri, mais que lui, quand même, il était pour, alors ça fait chier que ça a été voté. Je sais pas, vous avez un truc à en dire?
J'ai pas vu, il était pour la loi El Khomri?
Bah ouais, et il était vraiment déçu que ça ait été voté comme ça, sans même discussion avant le vote. Il était pas content.
Bah c'est bizarre.
Après, il y avait des réponses qui étaient plus intéressantes que son poste à lui, mais...
J'imagine. Non, ce qui est bizarre, c'est que c'est un peu le point d'origine, enfin c'est l'origine du mouvement, donc c'est bizarre d'être contre. Ça veut dire que, bon, je sais pas, chacun gère ses contradictions comme il l'entend, mais non, on est en grosso modo avec les politiques qui sont menées, les politiques libérales qui sont menées depuis un bout de temps, et là surtout, il y a beaucoup de déçus, des gens qui ont voté à gauche pour Hollande, etc., et qui... Bah, c'est dans la droite ligne de ce qui se fait depuis déjà un bout de temps, quoi. Depuis une vingtaine, trentaine d'années. Et non, je sais pas trop.
Mais on sait ce qui...
Désolée. Il y a aussi, c'est un avis, mais il y a beaucoup de... Il est peut-être pour la loi El Khomri, et la Nuit Debout, c'est la suite des manifestations qui ont lieu contre la loi El Khomri. Mais c'est... On manifeste pas seulement pour ça aussi. Il y a d'autres choses qui viennent derrière, et c'est comme tu disais, un peu dans la continuité de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et du dégoût, je dirais, que les personnes ont de la politique qui est mise en place en ce moment.
Mais alors c'est ça, ma question m'amène à quelque chose de peut-être plus large, c'est qu'en suivant de loin, on a du mal à comprendre dans quelle mesure est-ce qu'il y a un contenu qui est là. Plus ou moins a priori, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a une sorte de positionnement, si c'est pas de tout le monde, si c'est pas unanime en tout cas, mais un positionnement qui serait large, qui serait partagé, ou si vraiment tout le monde vient, raconte son truc, dit ah oui, moi je pense ça, après tout le monde s'écoute poliment, et finalement ça avance pas beaucoup. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme ça, par exemple, ou est-ce que... Est-ce qu'il y a quand même une sorte d'option forte, déterminée sur un paquet de sujets politiques, quoi.
J'ai pas compris. Dans quel sens tu veux le dire ? Dans quel...
Alors, en suivant de loin, avec, avec ce qui en sort, en écoutant des petits bouts de ce que des gens me racontent à la radio, en lisant des petits articles par-ci, par-là, on a du mal à savoir si... En fait, on a le soupçon que c'est possible que sur cette place, vous passiez beaucoup de temps à parler, à vous écouter très poliment les uns les autres, un peu quoi que disent les gens, parce que le but serait vraiment juste que tout le monde puisse s'exprimer, mais qu'à la fin, une fois que tout le monde s'est exprimé, on n'est pas beaucoup plus avancé, et puis il y en a peut-être qui vont dire... qui vont avoir des positions, je sais pas, moi, par exemple, pro-loi El Khomri, ou...
Ce qui se passe pendant les Nuits Debout, ça fait quand même avancer le mouvement. Et comme je disais, il n'y a pas tout le monde qui...
Pardon, il faudrait que tu te rapproches du micro.
D'accord. Il n'y a pas tout le monde qui milite vraiment, enfin, seulement contre la loi El Khomri. En fait, cette loi, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase, je dirais, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, toutes les lois qui sont passées, où il n'y a eu aucune réaction de la part des citoyens. Et en revenant dans les assemblées, les agora, ce qui est discuté, la plupart des choses font vraiment avancer le mouvement, même si on s'écoute poliment, mais il y a quand même les votes qui permettent une avancée, une grande avancée dans le mouvement.
Oui, c'est pas une thérapie de groupe non plus, hein, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est vraiment pas ça l'idée. Du coup, mais là, c'est quand les gens prennent la parole, tout le monde, on écoute tout le monde et tout le monde peut la prendre librement. Après l'idée, les gens en sont conscients, c'est qu'il faut proposer à chaque fois, c'est ça. Parce qu'on sait bien, c'est ce que tu disais là, c'est que c'est parti de l'encombrie. Après, il y a beaucoup de mécontentement, donc après on peut, il y a beaucoup de mécontentement et on peut parler des sans-papiers, on peut parler des sans-papiers, des violences policières, de ce qu'on, il y a tellement de mécontentement. Du coup, nous, on essaie de trouver un axe commun. C'est ça l'idée, quoi. De faire entendre nos revendications déjà, et dans un premier mouvement, faire grossir le mouvement. Parce que nous, on est d'avis en général, enfin, il y a des avis qui divergent un peu, mais sur le fond, on est d'accord. Mais ce qui revient, c'est que si on est nombreux, ça ira. Il faut qu'on soit nombreux, c'est ça. C'est nous, on veut. C'est pour ça qu'on veut. Enfin, c'est unifiant, quoi. Ça se veut rassembler. C'est un peu retisser un lien social qui est détricoté depuis je sais pas combien de temps. C'est les assos qui. C'est un lien social, voilà, des gens qui se parlent plus. C'est les sociétés d'individus. Et là, au moins, ça fait rien. Ça fait plaisir. Après, c'est pas le but de nous faire plaisir. C'est pas juste thérapie de groupe pour nous rassurer. C'est déjà de rencontrer des gens, de voir des gens qui partagent le même avis, qui ont un réseau à eux, qui peuvent faire des choses. Et l'idée, c'est que quand il y a une proposition, moi, je suis dans tel réseau, je fais ça, j'ai un boulot, j'ai des connaissances. Et c'est d'agrandir le mouvement surtout. C'est surtout ça l'idée.
Mais après, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Mais par exemple, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un prend la parole en disant que tout ça, en fait, c'est quand même la faute de l'immigration, par exemple. Est-ce que ça arrive, par exemple, que des gens disent des discours de ce type-là ?
Ça, c'est pas arrivé. Mais dans ce cas, ça va lancer un débat forcément, et ça va être tout le monde va dire sa position, et on va discuter de ça, et on va montrer à la personne après chacun a ses avis d'une certaine manière, mais selon moi, je veux dire, montrer à la personne que c'est peut-être, je sais pas, moi l'immigration ça me pose pas de problème personnellement, peut-être que ça a quelque chose à voir dans la balance, mais c'est pas ça qui fait pencher la balance. D'un certain côté.
Dans la mesure du possible, on essaiera de ramener les brebis égarées. C'est marrant, vu qu'on en a croisé une tout à l'heure, qui était vers Place Guichard. On lui a dit de passer. Elle nous a dit oui, les Français, etc. Et on a dialogué avec elle. Après, c'est eux qui refusent le dialogue. C'est pas nous. C'est eux, les gens qui sont irrationnels, qui fonctionnent sur la peur, la haine. C'est difficile d'avoir une conversation avec ces gens-là parce qu'ils se cachent et surtout qu'ils reprennent à chaque fois un discours qu'ils ont entendu chez leurs confrères frontistes, on va dire. Et qui n'est pas du tout argumenté, il n'y a rien qui tient. Enfin, on peut leur sortir les chiffres, on pourra discuter autant qu'on veut avec eux. C'est des gens têtus et bêtes, enfin, simplement bêtes, qui ne sont pas renseignés et qui sont dans la peur. Du coup, ces gens-là, si quelqu'un prend le micro, il se fera certainement huer. Et il y aura des gens, et moi je serai le premier à aller lui parler pour essayer de le ramener à la raison. Mais non, ça ne s'est pas encore passé.
Ok. Est-ce que vous considérez qu'en étant là-bas, par exemple, vous faites de la politique, ou est-ce que politique, vous trouvez plutôt que c'est un gros mot ?
Non, moi je trouve qu'on en fait. Bah, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément militants. Là, il y a des syndicats qui viennent, etc. Même s'ils se présentent pas en tant que représentants d'un syndicat, mais il y a des gens syndicats qui sont dans la lutte depuis longtemps. Et je pense que c'est là cette politique-là, parce qu'il y a surtout des abstentionnistes, j'imagine, des gens qui n'y croient plus du tout. Et là, si on fait pas de la politique, je me demande quand est-ce qu'on fait de la politique, parce que j'ai pas l'impression que les gens d'en haut en fassent. Si la politique c'est faite par le peuple pour le peuple, comme on connaît bien. Bah, on en fait plus que ces gens-là, quoi. On fait pas de l'intendance, ou alors de gérer des budgets, etc. On parle d'idées quand même, ça me paraît. Sans oublier tout ce qui est à côté, forcément. Mais oui, sinon on fait pas de politique. Je sais pas qui on fait.
Et il y a des gens qui viennent avec des étiquettes politiques.
Non, c'est non partisan, c'est partisan, mais il n'y a pas de parti politique personnellement. Après, forcément, il y a des gens qui n'ont pas attendu Nuit Debout. Nuit Debout, on n'a pas créé quelque chose qui n'existait pas, quoi. C'est juste fédérer des gens. Et il y a des gens qui sont dans des ONPA, qui sont à la CGT, qui sont chez Solidaires, chez FO, etc. Mais ils ne mettent jamais ça en avant. Ils sont là, pour les manifestations, on était avec Solidaires, on était là, ils ont prêté un local à un moment. On a tracté avec eux, bah parce que ces gens-là, ils sont là depuis longtemps, ils ont des réseaux, et que nous, on attend ça. On était allé à Vaux-en-Velin avant la manif pour aller tracter le matin même, pour pas arriver comme des fleurs et juste manifester. Et voilà, on a fait un peu de. Et on a été très bien reçus. On était très bien reçus.
J'ai écrit un truc, mais j'arrive plus à le relire.
Ouais, du coup, là, il y a des lycéennes ici. Camille, je crois. Et du coup, ouais, on voulait parler un peu, et du coup, tu vas parler, je pense, très bien de parler de ce qui se passe.
Nous, on a eu on a fait des rassemblements par rapport à la loi, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés de nos jours. Et comme je disais, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. On a fait des rassemblements devant le lycée, devant notre lycée, le lycée Robert Doisneau, pour montrer notre désaccord avec ce qui se passe et qu'on n'appuyait pas les politiques qu'il y a aujourd'hui. Enfin, les politiques. Ceux qui sont au pouvoir, du moins. Et du coup, on a fait des rassemblements devant le lycée, sans bloquer vraiment le lycée, parce que c'est interdit par la loi, et voilà. Et sauf qu'on a eu... on a été opposés à des forces de l'ordre dès le premier jour, dès le lundi, parce qu'il y a eu... en tout cas, on a été opposés à des forces de l'ordre appelées par le lycée. Et sauf que, étant donné qu'on est dans une banlieue lyonnaise, une banlieue qui a eu une histoire...
Il est où ton lycée ?
À Vaux-en-Velin, qui a eu une histoire... Enfin, Vaux-en-Velin, qui a une histoire qui fait peur, je dirais. On a tout de suite eu les forces de l'ordre en face de nous, et des forces de l'ordre pas forcément très calmes. Ils sont arrivés, ils étaient déjà habillés en anti-émeute, avec je sais pas comment ça s'appelle, mais les pistolets qui tirent des flashballs.
Les flashballs.
Ah, ça s'appelle des flashballs aussi, voilà. Avec des flashballs directement dans les bras, les gazeuses sur le côté, et les casques, les boucliers. Et c'était une sorte de provocation, ça a été une sorte de provocation par rapport aux lycéens de Vaux-en-Velin qui ont facilement réagi, je dirais, par rapport à ça. Et du coup, la police a arrêté beaucoup de personnes de façon grotesque et totalement injustifiée. Il y a des gens qui se sont pris, qui ont eu des. Qui se sont fait inculper pour des choses incroyables. C'était assez choquant, quoi.
Tu veux dire incroyable parce que ça avait rien à voir avec ce qu'ils avaient réellement fait, ou tu veux dire parce que les motifs étaient tellement futiles que c'était ridicule?
C'était ridicule, très ridicule. Y a quelqu'un qui s'est fait arrêter pour violence involontaire parce qu'il s'est fait courser, et le policier qui l'a coursé s'est fait une entorse à la cheville. Voilà. Ouais. On a eu pas mal de trucs comme ça.
Mais ils sont à bout de nerfs, les forces de l'ordre.
Surtout à Vaux-en-Velin, et c'était des policiers qui venaient pas de Vaux-en-Velin en plus, c'est-à-dire des gens qui connaissaient pas les personnes du lycée, du coup. Du coup, on a eu 13 arrestations lundi et une trentaine dans la totalité de la semaine.
Ah ouais.
Et il n'y a pas eu seulement des lycéens, il y a des gens qui sont venus nous rejoindre en soutien. qui se sont fait arrêter aussi, et on avait cauchemardesque, je dirais. On a reçu des lacrymos, des tirs de flashball. Il y a des voitures qui ont été abîmées par des tirs de flashball, et c'est les lycéens qui se sont, enfin les forces de la police ont dit que c'était les lycéens qui avaient abîmé les voitures. Et nous, en tant que lycéens, ça nous a vraiment choqués, quoi. Enfin, ça, c'est bizarre. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait de la garde à vue, qui sont passées en comparution immédiate. Il y en a qui vont avoir des jugements dans pas longtemps. Et il y en a qui n'ont pas eu d'avocat en garde à vue. Alors, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, mais pas forcément super bien. Il n'y avait personne pour les défendre. Ils n'avaient pas de nom d'avocat. Pas tout le monde ne connaissait forcément les principes de manifestation. Du coup, ça a été un peu...
Ah bah, est-ce que quelqu'un a sur soi... Ah, pardon Camille, vas-y.
Le truc, c'est que pendant cette semaine, en fait, on s'est senti... on a senti qu'on ne pouvait plus dire ce qu'on pense et qu'on n'a plus le droit de revendiquer nos droits, en fait. On n'a plus... Et on aimerait... on aurait aimé justement pouvoir au moins bloquer notre lycée sans encombre, pouvoir montrer ce qu'on pense, quoi. Mais en fait, la police nous est directement tombée dessus tous les matins. Ils étaient là à 7h30, 7h des fois.
Oui, 7h.
Mais ils étaient beaucoup plus matinaux que vous.
On était 5 devant le lycée à ce moment-là. On était 5 à être là pour... ils étaient déjà là, quoi. Mais après, il n'y a pas eu que ça. On a eu aussi des violences policières envers des lycéens. Mmh. Et pas que des lycéens, des gens en soutien. Il y a eu des coups. On a eu des insultes racistes. On a eu...
De la part de la police républicaine.
C'est choquant. Il y a par exemple quelqu'un qui s'est fait arrêter. Une seule personne. Enfin, le petit blond aux yeux bleus. Et il y a un policier qui lui a dit « C'est une question d'éthique. Il fallait bien qu'on en arrête. »
Ouais. D'accord. Est-ce qu'on en profite pour redonner quand même ici à l'antenne le numéro du téléphone d'urgence de la caisse de solidarité qui peut vraiment filer des coups de main quand il y a des gens qui sont arrêtés, des coups de main juridiques et trouver des avocats, aider, et ouais, c'est ça, aider à faire du conseil aussi.
Ouais, ça serait bien.
Et alors, le numéro de la caisse de solidarité, c'est 06 43 08 50 32. 06 43 08 50 32. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous tapez caisse de solidarité Lyon dans votre moteur de recherche et il y a un article sur Rebellion qui décrit très bien ce que c'est. Ils ont également des permanences à la Lutine, qui est au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement, les 1er et 3e jeudi de chaque mois.
Est-ce qu'on en est où de la liaison avec Paris ?
Eh bien, je vais balancer une petite chanson et on va faire ça.
On peut continuer à papoter entre nous si c'est possible techniquement.
Oui.
Ouais. Si je voulais relancer sur la question un peu des violences policières et judiciaires surtout. Je parle en mon nom du coup là. J'étais à la manif sur le périph.
Alors redis-nous très rapidement, parce que la manif sur le périph, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne voient pas de quoi il s'agit.
Non, c'était quand il y a une réunion à un comité interministériel qui s'est rendu à Vaux-en-Velin, là encore, ils choisissent bien leur lieu.
Provocation.
Et donc il y avait Macron, il y avait du beau monde, et donc il y avait un rassemblement, une manifestation, on était 500, 600 il me semble bien.
Et ça s'est rajouté, après il y a d'autres gens qui sont
rajoutés, sauf qu'on s'est retrouvés devant les barrières avec encore les anti-émeutes, et que ça n'a pas plu à certains de se faire bloquer à 200 mètres parce que voilà, manifester c'est très bien, mais si on pouvait se montrer un peu plus, sachant que là il y avait vraiment des barrières, on pouvait pas passer. Du coup, c'est parti un peu en manif sauvage, on va dire, et les gens ont suivi. Et certaines personnes ont décidé, je sais pas comment ça s'est décidé, un peu spontanément, donc voilà, d'aller bloquer le périph. Et là, la grêle a commencé à tomber, et nous aussi. Et du coup, ouais, je vais avec deux camarades, on s'est fait interpeller. On a fait 48 heures de garde à vue, alors que les chefs d'inculpation étaient vraiment légers. On a vu les communiqués en sortant, case 9 qui disait qu'on avait des manches de pioche pour agresser les CRS, que soi-disant 4 policiers ont été blessés, ce qui est totalement faux. Oui, il y en a un qui a été blessé, c'est parce qu'il y a un de ses collègues qui l'a tapé malencontreusement. Mais moi, ils me l'ont reproché d'avoir fait ça, etc. Et du coup, je voulais juste, pour le contexte, c'est comment le procès, on est passé en comparution immédiate, s'est passé. C'était une parodie de procès. C'était le président qui est censé, il me semble, être impartial, était très condescendant. Là, il y en a eu un bon exemple de violence symbolique là dans la gueule. Et la procureure aussi très remontée, ça se voyait clairement. Et on a
mais la justice en comparution immédiate, c'est quand même systématique.
Mais juste pour dire.
Le président qui est censé être neutre, ça existe pas du tout. En fait, je crois même qu'ils sont pas censés l'être. Enfin, ils ont systématiquement ce ton extrêmement professeur qui engueule un cancre.
Ouais, mais c'était juste pour dire que les interpellations, et c'est pour rejoindre ce qui s'est passé avec les lycéens, c'est que on le sait, mais les gens l'ont pas forcément vécu, alors je souhaite à personne de le vivre, mais que c'est, faut le dire, faut le relayer. Tout le monde était assez choqué parce que, en fait, non seulement ils sont pas impartiaux, mais ils mentaient clairement, là. Ils nous accusaient de choses qu'on n'a pas faites. En plus, en comparution immédiate, on n'a pas eu le temps de monter un dossier, on avait des photos, des trucs qui démontaient ce qu'ils disaient. Et non, on n'a pas eu ça, ils nous ont mis une peine parce qu'il fallait bien qu'ils sauvent la face même s'ils n'avaient rien contre nous. Et du coup, quand même dire aux gens que les qui mentent clairement, quoi. Qui mentent clairement et je veux attirer l'attention là-dessus parce que les gens qui s'informent par le progrès, bon, je pense pas que ce soit les auditeurs d'ici, mais je vais prêcher des... Ouais, c'est bon. C'est que voilà, faut faire être vigilant avec ce qui se passe dans la presse et en parler autour de soi, surtout de dire que les casseurs, ils parlaient de casseurs, etc., et de gens qui ont agressé avec des manches de pioche, ils les ont sortis tout droit de leur imagination, quoi. C'est assez.
Et alors, tant qu'on y est, on va aussi redire peut-être que la plupart du temps, si on est arrêté et qu'on doit passer en comparution immédiate, on peut de toute façon refuser la comparution immédiate. Ouais. On a toujours le petit risque, enfin plus ou moins petit, selon de quoi on est accusé, de rester en prison jusqu'au jugement. Mais quand même, pardon, c'est la liaison avec Paris qui s'annonce de manière impromptue au milieu de ma phrase. Mais quand même, la plupart du temps, ça permet de mieux préparer une défense. Et alors, typiquement, sur des cas comme ça, ça peut éventuellement permettre de rassembler des témoignages de gens qui, voire des fois, gens qui ont pris des photos à des bons moments et qui montrent que les flics mentent de A à Z.
Oui, exactement. Non, mais il faut faire de l'information sur les manifs parce que même si on n'a rien à se reprocher, ils vont trouver des trucs. De toute façon, ils veulent faire des exemples. Donc, après, voilà, s'ils attrapent quelqu'un qui a un peu un passé, qui a un casier, là, ils mangent du ferme pour rien. Du coup. Quand même être assez prudent là-dessus, quoi.
Bah, c'est aussi un peu pour ça qu'on a fait ce matin la distribution de tracts pour dénoncer les violences et la répression policière qu'on subit continuellement. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu difficile. Mais c'est un truc qu'on a continué à chaque fois en manifestation, rien que le fait d'être aussi encadré, fermé comme ça. Et ça, d'un certain côté, on a le droit de manifester, c'est un droit et tout ça, mais on est vraiment conditionné dans notre droit de manifester.
Et alors, je me demande où on en est maintenant de cette histoire de Paris.
Eh bien, on va pouvoir balancer la personne qui est au téléphone
super.
Avec nous, si tout va bien. Alors, attends deux secondes.
Ah, ça, la technique sur Radio Canu, c'est quelque chose d'un petit peu. Une sorte d'aventure.
J'imagine que je suis à l'antenne.
Oui, tu es à l'antenne.
Je comprends pas. Ok, et du coup, je suis place de la République à Paris. On est le 51 mars. Ça fait 20 jours que tous les soirs, ici, il y a des sortes d'assemblées populaires qui occupent la place. C'est assez impressionnant parce que c'est très très gros. Là, en ce moment, on se tient la grosse AG, l'AG populaire qui tient tous les soirs de 18h jusqu'à 22h, 23h, minuit, tous les soirs. Mais aussi plein de petites réunions éparpillées sur la place. Il y a 40 commissions, donc je vais pas toutes les citer, mais là je vois sous les yeux la commission santé, la commission avocat debout qui propose de faire des permanences juridiques, des aides juridictionnelles. Il y a... entre quatre arbres, une commission qui a mis des bandeaux pour pas qu'on passe, c'est la commission féministe qui fait une AG non mixte. donc dans laquelle, là par exemple, je ne peux pas entrer. Et puis de l'autre côté, il y a des stands un petit peu plus organisés, d'organisation extérieure à Nuit Debout. Il y a, ce soir j'ai vu, il y a un stand kurde avec le portrait d'Öcalan. Donc voilà, il y a généralement un stand de la campagne du boycott d'Israël, d'associations qui font un petit peu de la bouffe. Il y a Libertalia qui est là. Voilà, tous les soirs, c'est des trucs qui se montent sur un temps assez réduit puisque la mairie de Paris n'autorise pas ce rassemblement plus que de 18h à minuit. Donc tous les jours, des tentes se construisent en 2-2 à 18h et se démontent à minuit. Et puis ce soir, c'est un petit peu particulier puisque à la Bourse du Travail, donc qui se situe à quelques rues de la rue de la République, il y a une autre AG à l'appel de François Ruffin et du journal Fakir qui organise une autre AG qui s'appelle Nuit Debout et Après. Une AG est très ouverte en fait puisque la grande salle de la Bourse du Travail de Paris est complètement ouverte et déborde à tel point qu'ils ont sonorisé l'extérieur jusqu'à la place de la République, ce qui fait que sur la place de la République on peut suivre l'AG populaire habituelle plus l'AG exceptionnelle, un petit peu avec donc François Ruffin qui est un peu la star et qui était un des initiateurs de cette Nuit Debout mais qui a réuni plein d'autres gens qui essayent de faire la jonction avec avec une sorte d'intersyndicale pour un 1er mai unitaire. Voilà, alors pas trop quoi vous raconter d'autre sur cette Nuit Debout. C'est un truc très large. Moi, je suis pas sûr qu'il faille avoir une opinion très arrêtée parce que c'est un mouvement qui vit en cours. C'est vrai que quand on entend les politiques et les médias mainstream, on demande tout de suite une finalité. On demande ce que ça va donner. Est-ce que ça va se transformer en parti politique? Est-ce que ça va créer des affinités pour créer des groupes un petit peu plus radicaux? Enfin, voilà, peut-être que ça va être un peu tout ça. Et puis, j'ai l'impression que j'ai plutôt envie de dire qu'on s'en fout ce que ça va donner. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Moi, je trouve ça assez positif que depuis 20 jours, il y a des assemblées populaires qui désemplissent pas, qui sont assez éclectiques au niveau politique. Ça va des gens les plus radicaux à des gens un petit peu mous, à des gens un peu bisounours. Mais en tout cas, ces gens-là sont ensemble sur un temps donné avec des actions, des moyens d'action différents, mais qui se respectent un petit peu. Et je trouve ça assez joli. Puis une des initiatives qui est très très chouette, dont on vous a déjà parlé dans l'émission précédente, Méga Combi, c'est Radio Debout. C'est-à-dire que depuis le troisième ou quatrième jour de Nuit Debout, il y a une bande de gens qui font de la radio, qui sont arrivés, qui ont posé une sorte de studio de fortune avec un groupe électrogène, et qui retransmettent l'AG, mais qui font aussi des interviews sur des petits plateaux, des petits reportages, des petits trucs. Et c'est diffusé tous les soirs à partir de 19h, 20h jusqu'à minuit sur Internet. Vous pouvez aller écouter sur Radio Debout et c'est retransmis sur d'autres radios. Ce soir, par exemple, l'antenne est gérée par Fréquence Paris Pluriel, Radio Associative Amie de Radio Canu à Paris. Et voilà, c'est un lieu où c'est pas l'organe officiel de communication, c'est pas la radio officielle de la Nuit Debout. C'est juste des gens de manière autonome qui se sont dit, bon, on va faire la radio ici. Et voilà, depuis tous les soirs, ça émet et c'est assez génial.
Ok, alors je sais pas si tu nous entends, mais merci pour
ce... Ouais, je t'entends là.
Ah, super bien.
On peut te poser des questions maintenant.
Ouais, mais alors du coup, moi je m'étais tellement mis passif que... si, est-ce que toi t'as une idée de quel type de personnes assistent à la Nuit Debout à Paris? En termes d'âge, de classe sociale?
J'ai pas fait d'études sociologiques.
Non, bien sûr, mais une sorte d'impression à la louche.
À l'impression à la louche, si tu veux, on pourrait être... Enfin, en fait, le décor ressemble à une sorte... On pourrait être à une sorte de grande manifestation de soutien à la ZAD, tu vois, par exemple.
Ouais.
C'est-à-dire que ça réunit plein de gens un peu différents, mais quand même des gens finalement assez blancs, de tendance assez... tu vois, qui ont des tendances un peu écolo, mais avec différents degrés de radicalité. La diversité, elle va se retrouver plutôt là, plutôt dans le degré de radicalité politique. Après, je pense que effectivement, on est plutôt dans une classe moyenne blanche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, les gens sont conscients de ça. Ils prétendent pas être autre chose. C'est-à-dire qu'ici, les gens prétendent pas être représentants de la France prolétaire et exploitée des quartiers. Pas du tout. Les gens sont conscients de ce qu'ils sont. Et ils essayent de trouver des solutions pour que d'autres mouvements similaires ou différents naissent. En tout cas, il y a tous ces questionnements sont sont tous les jours posés en Assemblée Générale, sont tous les jours posés.
Et on va pas rester très très longtemps précisément là-dessus, mais il y a peut-être une grosse semaine, il était question d'un truc qui à ce moment-là s'appelait Banlieue Debout, et qui était un peu l'idée d'exporter la nuit debout en banlieue. Tu sais ce que ça a donné ?
Ouais, je sais qu'il y a de manière assez régulière des nuits debout, un petit peu partout en fait. Il y en a eu à Saint-Ouen, alors il y en a eu à Montreuil, mais Montreuil c'est un peu le 21e arrondissement de Paris hein, maintenant. Mais il y en a eu à Saint-Denis, il y en a eu à Saint-Ouen, il y en a eu au Blanc-Mesnil, il y en a eu de manière un petit peu partout, alors pas comme ici ou comme à Lyon, c'est-à-dire de manière quotidienne, mais sur des temps donnés. Et c'est des choses qui continuent, je sais qu'à Saint-Ouen il y en a eu ce soir. Hier on a appris qu'il y en avait dans des petits villages du sud-ouest, dans un village de 4000 habitants, vers Mirepoix. Donc voilà, il y a plein de trucs, on ne sait pas trop, mais c'est assez divers. Oui, hier à Radio Debout, on recevait des gens de banlieue debout, qui sont plutôt des gens du secteur associatif qui bossent dans les quartiers, qui essayent aussi de relayer ce qui se passe. Pas forcément de faire la même chose en banlieue en fait, mais d'essayer de tisser des liens en tout cas.
D'accord. Dans les choses qui se discutent sur la place de la République, le genre de thématique qui passionne les foules, c'est quoi ?
Alors c'est très varié. C'est des assemblées populaires avec des tours de parole, donc c'est assez organisé. Tu t'inscris pour prendre la parole. Généralement, tu vas passer une demi-heure, trois quarts d'heure après. Donc ça passe à quelqu'un et c'est limité à 2 minutes. Ça passe à quelqu'un qui va faire la promotion d'une sorte de banque alternative, à quelqu'un qui va faire le bilan de l'action qui a eu lieu cet après-midi, action des intermittents en soutien aux grévistes de McDonald's en lutte, qui s'est fait nasser par la police à la gare du Nord. Ça s'est vraiment passé cet après-midi, donc il y a quelqu'un qui vient raconter ça. T'as les commissions. Alors voilà, il y a, je vous le disais tout à l'heure, il y a plus de 40 commissions sur différentes thématiques du féminisme, de l'antispécisme, de la communication, de la logistique, tout ça, qui viennent faire des bilans. Donc les discussions sont hyper variées. T'as des gens un peu perchés qui se sont dit « Allez, on va écrire une nouvelle constitution ». T'as des gens qui sont dans des trucs beaucoup plus concrets, qui sont en train d'organiser des actions au quotidien, des trucs très simples de tractage ou alors des manifs. Enfin, voilà, c'est assez varié les discussions.
Et alors, aussi pour me faire une idée un peu de ce que c'est l'ambiance par rapport aux institutions et au monde extérieur, les gens, quand ils écrivent une constitution, est-ce que c'est une constitution qu'ils veulent imposer au terme d'une révolution, ou est-ce que c'est une constitution qu'ils veulent proposer au gouvernement ou au conseil constitutionnel ou que sais-je? Est-ce que c'est une sorte d'exercice intellectuel pour eux pour avancer intellectuellement? Ça ressemble à quoi?
Alors, moi, si tu veux, j'ai pas discuté.
Ou alors, oui, même si t'as pas de réponse pour eux particulièrement, disons plus largement le rapport des gens qui sont sur cette place avec ce qu'ils imaginent comme débouché pour ce qui se passe sur la place, comme débouché extérieur.
Je sais pas trop, comme je disais, c'est vraiment il y a une vraie diversité de radicalité politique. Donc effectivement, il y a des gens qui vont écrire une constitution. Enfin, pour moi, j'estime que c'est des gens qui perdent leur temps là, hein, à vouloir écrire une constitution. Bon, moi, je pense qu'on peut faire autre chose en attendant. Mais tu vois, il y a des gens donc qui sont un peu là-dedans. J'imagine qu'il y a des gens qui sont proches des mouvements type 6e République, Jean-Luc Mélenchon, donc qui se servent un petit peu de ce truc de la constitution pour ramener vers un mouvement politique existant et assez mainstream. Après, tu as des gens plus radicaux qui tous les soirs, par exemple, font voter en AG. Le fait que l'occupation de la place continue après minuit et donc rentre dans un truc illégal, parce que là on est dans une occupation légale, c'est-à-dire qu'il y a des autorisations, il y a des gens de nuit debout qui sont mandatés pour aller négocier avec la préfecture. Donc voilà, on ne peut pas résumer, je pense, tous les gens qui sont là sur leur rapport à l'extérieur et à l'institution, c'est super divers.
Alors bon, peut-être nous on va quand même essayer d'avoir un petit quart d'heure d'info généraliste. Juste avant dernière question, tu penses qu'il y a de plus en plus de monde, ou quand même petit à petit moins de monde, ou que ça se maintient? Et
ça se maintient. Il y a des soirs où il y a beaucoup moins de monde. Lundi, on ne sait pas trop pourquoi, il y a eu la projection du film Demain, une sorte de film écolo-capitaliste de Mélanie Laurent là. Du coup, ça a fait un gros flop. Et à 22h, il n'y avait plus grand monde. Ce soir, vu qu'il y a l'autre AG à la bourse, il y a énormément de monde. Enfin, ça varie, la place est pratiquement remplie. Habituellement, c'est la moitié de la place de la République, donc qui est quand même une des grosses places de Paris, qui équivaut, qui est pratiquement aussi grosse que la place Bellecour, pas tout à fait, mais pratiquement. C'est la moitié de la place qui est vraiment occupée par une foule. Et là, c'est pratiquement toute la place qui se soit occupée, parce qu'à l'autre bout de l'AG habituel, comme je disais tout à l'heure, il y a la retransmission de l'AG de la bourse.
Et alors moi j'avais une dernière question, si tu pouvais me répondre en une minute, c'est juste j'avais besoin d'être rassuré, parce que dans les médias, les trucs qui sortent vachement, c'est des trucs de un peu de propreté de la place, ou tu sais, comme si ça prenait énormément de place au sein du mouvement, et du coup particulièrement à Paris, parce que les médias étant à Paris, c'est là-bas qu'ils vont. Est-ce que c'est une réalité, ou est-ce que en vrai c'est les médias qui en font tout un foin pour pas grand chose?
Alors j'ai pas compris, est-ce que tu peux me répéter plus fort juste sur de quoi qu'il y a une réalité?
De savoir si les débats sur la propreté de la place et tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps dans les AG de Nuit Debout, ou c'est vraiment les médias.
Ça prend pas plus de temps que dans une réunion à Radio Canu. ça prend un peu de temps. En fait, c'est assez clean, hein. C'est super clean.
Ok.
C'est super clean. Comme je disais, l'autorisation est super limitée. Tous les soirs, c'est démonté à minuit. Enfin, moi, je participe un peu à la radio, du coup, nous, on plie la radio. Enfin, c'est pas crade. Il y a une grosse organisation logistique. Il y a des sacs de poubelles partout postés sur la place. Un petit peu comme un 1er mai de Radio Canu, si tu veux, sauf que la place fait 10 fois la place Satonnet. Donc, non, évidemment, il y a des discussions sur les points comme ça d'autogestion qu'il faut avoir, mais ça prend pas non plus beaucoup de place.
Ok, d'accord. Eh ben, merci beaucoup. D'avoir fait jouer notre envoyé spécial de Paris, de la place de République. Et puis
n'hésitez pas à zapper Canu et à aller écouter Radio Debout sur Internet.
Ouais, attendez encore 10 minutes.
Allez, merci bien. Ciao.
Salut.
Ouais. Ouais. C'est rien. De la rue monte les rumeurs, ça va pas bien loin. Ici les casques bleus calent, c'est rien. Si c'est chaud sur l'asphalte, c'est rien. On passe tes barricades, on pète tes barrières. On a la barre, on déraisonne et on craint plus personne. Toi t'as peine des renforts, la rage de renfort. Sonne ta retraite, c'est ton heure qui sonne. Insensible aux propagandes, les mecs qui glandent. Ceux-ci vendent des lasses et veulent tout péter en bombe. Comme dans un James Bond ou un Banderas. Là t'as pas de télécommande, donc on dicta. En force, en foule des ordres. C'est rien. Pour toi, on a une corde. C'est rien. Tu nous verras à l'antenne, déraciner ton chaîne. On va changer les programmes sur ta première chaîne.
Alors, il nous reste 10 minutes d'information. On va faire très vite. En résumé, il y a le MEDEF qui était à deux doigts de rejoindre la CGT à propos de la loi travail. Mais à Lyon, du coup, 8 individus n'ont vraisemblablement pas été mis au courant du revirement gauchiste de Gattaz, puisqu'ils ont lancé des œufs remplis de peinture sur le bâtiment et ont tagué Gattaz m'a tué. Et ceci est un repère de casseurs. Le MEDEF, un peu vexé de ne pas avoir été considéré comme un allié objectif dans la lutte, a décidé de porter plainte. Mais comme les flics sont aussi de leur côté assez vexés par les affiches de la CGT qui eux aussi se gauchissent décidément, ils parlent de violence policière inadmissible, ils ont décidé d'ouvrir une enquête pour choper ces dangereux malfrats. On va pas lire leur communiqué de presse, mais vous pouvez le retrouver sur Rebellion. Et tant qu'on en est à la dénonciation des violences policières, il y a 12 syndicats lyonnais qui ont pondu un communiqué pour dénoncer la répression policière durant les manifestations contre la loi travail. Les syndicats dénoncent aussi bien les pratiques courantes de la police, gazage, charge, matraquage, tir de flashball, etc. Mais il dénonce également le nombre d'interpellations complètement disproportionnées des lycées Doineau dont on a parlé tout à l'heure à Vaux-en-Velin, quand les élèves ont tenté de bloquer leur lycée. Bien entendu, le préfet n'a fait qu'un avec ses troupes et justifie du bon travail de la police qui a permis, malgré l'état d'urgence, d'assurer le droit à manifester. Et oui, donc maintenant, il faudrait le remercier de ne pas interdire toutes les manifs, sauf qu'il oublie de préciser un truc, c'est qu'il lui aurait été impossible d'écraser cette contestation sociale et qu'interdire ces manifs aurait certainement eu un effet contre-productif.
Alors, à propos de la fameuse affiche de la CGT, pour des gens qui n'auraient pas entendu cette info quand même, Cambadélis, le chef du PS, a dénoncé une gauchisation de la CGT. C'était juste pour dire que, en tout cas, lui, il a de la chance parce qu'il est dans un parti qui ne court aucun danger de ce côté-là.
Et donc ça peut être à toi maintenant.
Oui, alors on va passer à une petite info internationale vite fait. Du coup, je voulais parler du projet de changement de la constitution en Turquie.
Si tu pouvais parler devant ton micro, j'entendrai mieux.
Oui, d'accord, merci.
En Turquie aussi, des gens réécrivent une constitution.
Alors oui, et celui qui réécrit la constitution, c'est toujours le même, c'est le président islamo-conservateur Erdogan, qui du coup est en train d'essayer d'éradiquer le mouvement de protestation des Kurdes, qui sont donc faut rappeler que la plus grande majorité des Kurdes se trouve en Turquie, et après les dernières élections, le parti pro-kurde a fait un grand score, ce qui a eu pour résultat que le président Erdogan du coup n'a pas eu la majorité, et c'est peut-être une sorte de vengeance. En tout cas, du coup, depuis ces dernières élections, il se passe des trucs horribles en Turquie, c'est-à-dire le massacre de populations kurdes sous le prétexte que ces gens-là aident des terroristes. Donc tout l'est de la Turquie, il y a énormément de villes en état de siège, avec encerclées par l'armée, avec des blocus qui font que les gens ne peuvent pas se nourrir, etc., etc. Donc voilà, il y a notamment depuis quelques temps, il y a même pas mal de maires de villes kurdes qui ont été mis en prison et condamnés pour terrorisme. Et là, ce que veut faire le président Erdogan, c'est changer la constitution pour lever l'immunité parlementaire des députés qui font partie de ce parti kurde, le HDP. Et apparemment, il va y arriver puisque... Le parti fasciste, bien sûr, d'extrême droite turque, mais qui fait passer le Front National pour des bisounours, hein, vu quelle teneur il a là-bas, est évidemment d'accord avec ça. Le parti social-démocrate dit oui, c'est vrai, nous on a toujours été contre l'immunité parlementaire parce que c'est pas bien qu'il y ait des citoyens qui soient au-dessus des autres. Du coup, bon, bah si on commence avec les députés kurdes, voilà, on votera pour, ça va dans le bon sens. Voilà, donc je voulais parler de cette histoire parce que si cette loi passe, et elle risque de passer, ce sera à la fin du mois, il va y avoir effectivement des parlementaires qui sont d'un parti de gauche et humaniste en Turquie, qui risquent la prison pour des opinions politiques. Et ça, c'est quand même extrêmement grave, et ça risque de se passer bientôt, au moment où la Turquie est réexaminée pour rentrer dans l'Union européenne, et a le soutien de l'Union européenne à cause du chantage aux réfugiés. L'histoire que l'Europe a donné beaucoup d'argent et soutient tout ce que fait la Turquie pour que la Turquie bloque le flux de réfugiés qui viennent notamment de Syrie. Et du coup l'Europe est complice et des massacres et des énormes atteintes à la démocratie qui se passent maintenant. Donc à suivre ce projet de loi qui risque de passer. Voilà.
Et alors un tout petit jingle. Des nouvelles du camp de Idomeni. Alors Idomeni, c'est ce camp situé en Grèce à la frontière avec la Macédoine où sont amassés plus de 10 000 réfugiés. Il y a une semaine déjà, plusieurs centaines de migrants du camp avaient manifesté le long de la frontière gréco-macédonienne, là où est situé le camp. Actuellement fermé pour réclamer l'ouverture des frontières et la libre circulation, les réfugiés avaient tenté de forcer les grillages et ont jeté des pierres sur les flics macédoniens qui sont littéralement défoulés sur eux en les inondant de gaz lacrymogène et de flashballs. Une centaine de réfugiés avaient été blessés, des personnes se sont évanouies sous le gaz lacrymo et plusieurs personnes ont dû être amenées à l'hôpital. Et là, ce lundi, des migrants ont pris d'assaut un fourgon de la police grecque au camp, dans ce camp-là, là, à Idomeni. Le véhicule s'est retrouvé avec son pare-brise complètement explosé à coups de pierre. La tension est montée d'un cran quand un Kurde syrien a été victime d'un accident grave à la tête. Alors on n'en sait pas vraiment plus, ni une ni deux. La nouvelle a fait le tour du camp et les premiers suspects sont les flics grecs. Bien entendu, le gouvernement dément tout de façon catégorique, mais comme on imagine que ni la police grecque ni la police macédonienne est aux petits soins avec les immigrants, on peut dire que c'est pas cher payé par rapport à ce qu'ils subissent quotidiennement.
Les gens qui pensent encore voter Mélenchon un jour dans leur vie feraient quand même vraiment vraiment bien de s'intéresser de près à ce qui se passe en Grèce avec le Mélenchon grec.
Tout à fait. Et là, on va faire un truc sur une nouvelle encore moins drôle, mais il y a eu 500 morts de plus en Méditerranée suite au naufrage d'une embarcation de migrants venus en grande partie du Soudan, de Somalie et d'Éthiopie. Alors cette fois-ci, pas de photo du petit Island, ni pour les nombreux autres naufrages. Du coup, ça en parle un peu dans la presse, mais ça ne soulève pas les foules pour autant. Et ce qu'il faut bien comprendre, donc, dans la logique des fermetures des frontières de l'Europe, voulues notamment par le gouvernement allemand et français, c'est qu'elles tuent autant que s'ils avaient posté des miradors autour de l'Europe et qu'ils avaient tiré à vue sur ceux qui tenteraient de passer. Mais les dirigeants ont su tirer des leçons de leur histoire et savent très bien jouer sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Pourtant, quand on rend une frontière difficile à passer, plus les personnes vont tenter de la franchir, vont prendre des risques, mais leur nombre ne va pas diminuer pour autant, donc les gens vont prendre plus de risques, donc ils risquent de crever en route. Alors c'est vrai, ce n'est pas un militaire qui aura appuyé de sang-froid sur sa détente pour abattre un Syrien qui a fui la guerre, ou un Somalien qui a fui la pauvreté. C'est vrai qu'il y aura des secours dépêchés pour tenter de sauver ceux qui ne se sont pas encore noyés. C'est aussi vrai que les politiques parleront de drames humains, mais ces différences-là n'ont d'importance que quand on est du bon côté de la frontière. Le seul but des dirigeants dans ce qu'ils appellent la crise migratoire, c'est de protéger leur part du butin, et leur seul souci, c'est de ne pas traiter ce problème. De la façon la plus humaine possible, mais juste de nous la rendre acceptable pour qu'une fois la radio ou la télé éteinte, le journal plié, on se dise juste putain, c'est dégueulasse.
Et ben voilà, on arrive quand même pas très loin de la fin de ce Canu Info. Alors Camille, est-ce que tu veux nous dire quels sont les prochains rendez-vous importants?
Du coup, le prochain où il y aura vraiment du monde et il faut être nombreux, c'est jeudi prochain, le jeudi 28 avril, rassemblement du coup à la Manif des Tabacs pour une manifestation. Du coup, on sera nombreux, j'imagine.
Ça, c'est une manifestation contre la loi El Khomri.
Oui, il faut accompagné préciser.
Ouais. Accompagné de préavis de grève de syndicats unitaires, bon, à part la CFDT, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Et après, pour l'agenda, j'invite les gens du coup à venir place Guichard, vu qu'il y a un petit agenda qui se met en place. Il y a des actions, il y a des tractages, on va contacter des associations, des gens, prendre des contacts, étendre sur le modèle de Paris, c'est pas un modèle, mais diffuser le message, le relayer ailleurs que place Guichard aussi. À Croix-Rousse, c'est bien aussi. À Vaux, ce serait encore mieux. À Rieux, ce serait encore mieux. Du coup, voilà, parlez-en autour de vous. Venez place Guichard, il y a un autre agenda qui s'enrichit. Il y a beaucoup d'actions. Et si vous êtes motivé et vous avez la déter, venez nous voir.
Et donc, on rappelle place Guichard tous les jours à partir de...
À partir de 18h.
On a une minute d'avance. Et ben, ce qui va nous permettre de remettre un petit peu de bande continue.
Tout à fait. Et après, vous allez écouter Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.
C'est ça. Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.
Les règles n'existent plus. La foule a compris et ça n'hésite plus. Le bien ou le mal, mais là c'est pas le bien qui triomphe. L'instinct a fait un triomphe et un cri en fausse. Si l'émeute s'étend, c'est rien, c'est rien. Et si c'est inquiétant, ça va pas bien loin. Si tout est fermé, les rues et les voitures enflammées, et ta citoyenneté, on en a rien à glander. Les gens des halls me comprennent, c'est leur holis que j'aime. Ils disent qu'il y a trop de haine qui coule dans mes veines. Un peuple héroïque face à un pouvoir égoïste. Un coup de gueule des sous-classes de la République. C'est un champ de bataille sur les Champs-Élysées. Le diable vient pisser sur la rue de la paix.
Emporté par le microbe xénophobe, par nos phobies, nos parano, nos folies, du Chili jusqu'en Mongolie, la vie reste un uniforme bardé de traîtres, de contre-maîtres.